Les mystères du Palais Royal, troisième partie, chapitre 4. L'inconnu. Brave enfant, pensa Raoul en face du trait si caractéristique de notre ami Jacques. Âme d'or, nature angélique. L'habit de velours du gentilhomme cache parfois un moins noble cœur que la casaque galonnée du laquais. Je ne pense qu'à la vengeance. Lui ne songe qu'à m'aimer, à me suivre et à me servir. Puis, comme le visage pâli et les yeux rougis et gonflés du jeune garçon dénotaient une fatigue extrême, Raoul lui enjoignit d'aller se mettre au lit et d'y dormir une grasse matinée. Jacques obéit avec une promptitude qui prouvait que l'ordre qu'il venait de recevoir lui était particulièrement agréable. Monsieur de la Tremblay, de son côté, se coucha aussitôt qu'il se trouva seul et ne tarda point à s'endormir. Des songes, tour à tour terribles et riants, mais tous du meilleur augure, vinrent visiter son sommeil. Il rêva qu'il chassait devant lui, à grands coups de plat d'épée, le vicomte Claudulphe Éléonore de Jacquemet, tremblant et éperdu. Il rêva qu'il faisait pendre par le cou, haut et court, aux trois plus grosses branches d'un vieux chêne, ce ridicule et déloyal gentilhomme, en compagnie de ses dignes amis et parents, le chevalier Anténor de Vertappuis et le baron Stanislas Landolf Adhémar de Mornesouche. Ces trois vilains personnages faisaient en se débattant toutes sortes de grimaces bouffonnes et de contorsions comiques qui réjouissaient Raoul au-delà de toute expression. Puis la vision changeait, et de hideusement grotesque qu'elle était d'abord, devenait tout à coup gracieuse et séduisante. Raoul revoyait Déborah, la belle juive, dont l'aspect la veille au soir l'avait frappé beaucoup plus qu'il ne voulait se l'avouer à lui-même. Il la voyait non plus vêtue d'une robe sombre et le visage empreint d'une dignité sévère, mais éblouissante de parure, souriante, presque provocante, mettant un genou en terre devant lui et lui présentant, avec un sourire plein d'amour, les clés du manoir féodal de La Tremblay sur un plat d'or timbré à ses armes. Peu à peu, ses rêves s'effacèrent. La fièvre allumée par une nuit passée au jeu s'éteignit dans les veines du jeune homme. La fatigue usait de ses droits incontestables. Le sommeil de Raoul devint lourd et profond, et se prolongea jusque bien avant dans le jour. Il était 3 heures de l'après-midi quand Monsieur de la Tremblay, après avoir achevé sa toilette, quitta l'hôtel de la Toison d'Or. Raoul songeait à chercher un logis digne de lui et de sa position nouvelle. Mais d'abord et avant tout, il voulait retirer d'entre les mains de l'usurier Nathan la montre armoriée et entourée de diamants, précieuse relique qui, nous le savons, lui venait du marquis Réginald. Il se dirigea donc du côté de la rue Saint-Honoré. Il marchait de son pied léger, car il éprouvait le besoin de respirer à plein poumon un air vif et pur, et dans ce but, il n'avait voulu se servir ni d'un carrosse, ni d'une chaise à porteur. D'ailleurs, ce véhicule de louage semblait au jeune homme ignoblement mesquin et vulgaire. Il se proposait de se donner très incessamment un charmant vis-à-vis, dont le tremble d'or en champ de gueule illustrerait les panneaux aristocratiques. Dans son imagination, il attelait déjà à ce vis-à-vis deux magnifiques chevaux de couleur Isabelle, aux longues crinières et aux queues en panache, élégamment ornées de rubans pourpre et argent. Il allait ainsi, souriant à ses rêves, la tête haute et la mine fière. C'était le même homme que la veille, et cependant, certes, pour tout le monde, il eût été méconnaissable. Tout était changé en lui. Ce n'était ni la même démarche, ni les mêmes allures. L'expression du visage était changée, comme le reste. « Pourquoi cela ? » demandera-t-on. « Mon Dieu, la raison en est bien simple. » La veille, Raoul subissait les rudes lois de la misère. Il lui fallait appliquer sur son visage le masque de cette humilité dont les pauvres n'ont pas le droit de dénouer les cordons. Aujourd'hui, il se sentait riche. Il allait, du moins c'était sa conviction absolue, le devenir bientôt davantage. Et il se répétait jusqu'à satiété cette parole échappée de ses lèvres au moment où il venait de reconnaître son étoile brillant au ciel parmi des constellations nébuleuses. « À moi la vie, à moi l'avenir !» On comprend que dans une semblable situation d'esprit, Raoul s'inquiétait fort peu de coudoyer les passants. Plusieurs songeaient à s'en formaliser et à rudoyer le jeune impertinent qui ne regardait point devant lui. Mais la mine fière de M. de la Tremblay et l'épée qu'il portait en verrouille, avec une grâce incontestable, imposaient le silence à ses naissantes colères. Et les bourgeois, un peu irrités, mais aussitôt redevenus pacifiques, passaient ou s'éloignaient en grommelant. Quant à Raoul, distrait comme un poète ou comme un amoureux, il ne les avait ni vus ni entendus. Heureux Raoul. Cependant, si lentement et si distraitement qu'on marche, on finit par arriver, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Raoul approchait du but de sa course. Il atteignait l'angle de la rue Richelieu et il allait tourner pour entrer dans la rue Saint-Honoré quand il heurta quelqu'un qui marchait rapidement dans le sens opposé. Le premier mouvement de Raoul fut de s'écrier « Maladroit !» Mais le quelqu'un qui venait de heurter ainsi, et qui était une jeune fille, poussa un si joli petit cri que Raoul abaissa vivement les yeux vers le point d'où ce cri était parti, et tout aussitôt il mit son chapeau à la main, puis, au lieu de l'exclamation qu'il allait formuler, il murmura de la voix la plus humble « Oh, pardon, mademoiselle ! Pardon, mille fois pardon !» À quoi fallait-il attribuer ce changement si brusque et si peu attendu dans les façons de notre héros? On le devine. Les regards éblouis de Raoul venaient de s'arrêter sur le plus charmant visage qu'il fût possible d'imaginer. Et quoique ce visage fût celui d'une simple grisette, à en juger du moins par le costume de la jeune fille, Monsieur de la Tremblay subissait cet empire que la beauté exerce sans conteste depuis que le monde existe. La grisette, de son côté, leva sur Raoul ses grands yeux noirs, qui se voilèrent aussitôt après, sous le réseau de ses cils de velours, et ses lèvres vermeilles répondirent en souriant. « Mon Dieu, monsieur, il n'y a pas de mal !»« C'est que voyez-vous, » balbutia le jeune homme, « je m'en veux plus que je ne saurais vous le dire, mademoiselle, d'avoir été assez étourdi, assez inconsidéré, assez maladroit pour vous heurter. » La jeune fille sourit de plus belle, ce qui fit étinceler les perles orientales qui lui servaient de dents. Puis elle répondit « Je vous répète, monsieur, qu'il n'y a pas de mal. » Ensuite, elle fit une légère révérence. Elle rajusta d'une main à droite le capuchon de son mantelet et les plis un peu dérangés de sa jupe de toile peinte. Pour la troisième fois, elle sourit et elle continua son chemin. Raoul, toujours tête nue, s'écarta respectueusement pour la laisser passer. Puis, quand elle eut passé, il se retourna pour la voir encore. La jeune fille s'éloignait, trottant menu comme une jolie souris blanche et choisissant les pavés du bout de son petit pied. Quand elle eut parcouru un espace d'une centaine de pas, sa marche devint moins rapide. Elle fit comme Raoul, elle tourna à demi la tête et elle regarda en arrière. Elle aperçut Monsieur de la Tremblay toujours à la même place et toujours le chapeau à la main. « Mon Dieu ! Pensa-t-elle. Qu'il est charmant, et comme il me regarde. S'il allait me suivre pourtant. » Mais sans doute l'idée qu'elle venait de formuler ainsi n'avait rien pour elle de bien effrayant, car elle n'en marcha pas plus vite. « Qu'elle est jolie !» se disait Raoul en même temps. « Si je la suivais !» Pendant une seconde, il fut indécis. Mais son rêve de la nuit précédente lui traversa soudain l'esprit. Il revit Déborah, sa tête pâle et fière, et ses grands yeux arabes. « À quoi bon suivre cette grisette ? » se demanda-t-il. « Ne vais-je pas revoir dans un instant une créature plus belle encore ?» Cependant, son hésitation continuait. S'il avait remarqué que la jeune fille tournait la tête pour le regarder, sans aucun doute il l'aurait suivie. Mais ce mouvement lui échappa, et des groupes de badauds s'interposant entre lui et l'inconnu, il la perdit de vue tout à coup. Il n'en fallait pas plus pour effacer l'impression fugitive qui venait de se produire. Raoul remit son chapeau sur sa tête et tourna d'un pas leste l'angle de la rue Saint-Honoré. L'inconnu, tout en s'éloignant, se répétait encore « S'il me suivait, s'il me suivait !» Mais Raoul ne la suivait pas. Cette grisette était la fille du diable. Chapitre 5. Raoul et Nathan. Raoul atteignit en quelques minutes la maison d'Ézéchiel Nathan. Comme la veille, il franchit les trois marches qui conduisaient à l'unique entrée de cette maison. Comme la veille, il souleva le marteau et le laissa retomber lourdement. Mais il lui sembla que ce marteau, en heurtant la plaque de bronze, en tirait un son plus joyeux, et que l'écho qui s'éveillait à l'intérieur lui souhaitait la bienvenue, ainsi qu'une voix amicale. Une ou deux minutes s'écoulèrent. Le gros chien des Abruzzes, enchaîné dans la cour, hurlait d'une façon rageuse. Raoul pensait à Déborah. « Elle va venir », se disait-il. Mais un pas qui n'était pas le sien résonna dans le corridor. Le petit guichet s'ouvrit, un visage jaune et parcheminé apparut. Une voix qui n'avait rien ni de frais ni de jeune demanda « Qui êtes-vous et que voulez-vous » Raoul tressaillit. Nathan remplaçait Déborah. Cependant, le jeune homme répondit « Je suis le gentilhomme que vous avez reçu hier au soir, et c'est vous-même que je demande. »« Ah !» fit Ézéchiel. « En effet, maintenant je vous reconnais à merveille. Excusez-moi, mon gentilhomme, mais je vois tant de monde chaque jour que je confonds parfois les visages. Avec cela que je me fais vieux et que ma mémoire n'est plus si bonne qu'autrefois. » « c'est bien, » répondit Raoul. « Ouvrez la porte, c'est tout ce que je souhaite. » « à l'instant même, » répliqua le juif qui faisait jouer les verrous et crier les serrures. La porte s'ouvrit. Monsieur de la Tremblay entra. « Montons, s'il vous plaît, » fit le juif. « Nous causerons d'affaires en haut. » Raoul suivit Nathan. Tout en marchant, il regardait partout s'il n'apercevait aucune trace de Déborah. Mais la jeune fille était invisible et rien ne révélait sa présence. Raoul et l'usurier arrivèrent dans la pièce que nous connaissons déjà. Le juif s'installa dans le vieux fauteuil de point de Hongrie. Il étendit devant lui sur son comptoir ses mains rapaces et crochues, aux doigts jaunes et aux ongles noirs, et il dit « Si vous venez pour un nouvel emprunt, vous savez que je ne puis rien faire sans un gage. Voyons ce gage. » « Je n'emprunte point, » répondit Raoul. « Alors, que souhaitez-vous ? Vous rendre ce que je vous dois ?» « Mais 60 louis ?»« Oui. Mais vous m'avez demandé 6 semaines. J'aime mieux vous rembourser tout de suite. Vous savez qu'il a été bien convenu que l'intérêt stipulé serait le même, que le délai fût de 2 jours ou qu'il fût de 6 semaines. Je le sais et ne songe point à discuter. Je vous dois 60 louis. Les voici. » Et Raoul posa devant le juif une petite pile de pièces d'or. « Le compte y est, » fit Nathan après avoir soupesé chacun des louis dans sa griffe de vautour. « C'est de bon or et point rogné. Peste, mon gentilhomme, vous êtes exact. Cela vous étonne ? Nullement. D'abord, moi, je ne m'étonne de rien. Je dis seulement qu'il y a du plaisir à faire des affaires avec vous. Aussi, croyez bien que ma caisse est et sera toujours à votre disposition. Vous n'aurez qu'à parler. » Raoul fit de la tête un signe qui pouvait, au besoin, passer pour un remerciement. « Vous avez quelque chose à me remettre ? » fit-il ensuite. « C'est juste, votre montre, moi qui l'oubliais. C'est très drôle, mais soyez tranquille, elle est là. » Nathan quitta son fauteuil et se dirigea vers un coffre-fort qu'il ouvrit. La montre de Raoul s'y trouvait en effet au milieu d'un monceau de bijoux de toutes les espèces, dont chacun portait une petite étiquette sur laquelle se lisaient la date et les conditions de l'engagement et la désignation du propriétaire. C'était, comme on le voit, l'idée mère du monde piété. Cette philanthropique institution qui prête de l'argent aux ouvriers, aux étudiants et aux filles entretenues, à un taux que certains usuriers de profession refuseraient d'avouer. Mais nos mœurs et nos lois sont ainsi faites. Nathan prit la montre et il enleva l'étiquette. Puis il présenta le bijou à Raoul en lui disant « C'est bien celle-là, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit le jeune homme. « Elle est fort magnifique, et si vous m'aviez proposé de l'acheter, comme les diamants sont d'une belle eau, je crois que j'aurais fait la folie de la payer 100 louis. »« Oui, ma foi, 100 louis, je ne m'en dédie pas. »« J'espère n'avoir jamais besoin de la vendre, » répondit le jeune homme, qui espérait, en prolongeant l'entretien, voir apparaître Déborah. « Tant mieux pour vous, oh, tant mieux !» murmura Nathan d'un ton pénétré. « Merci, » dit Raoul. « Mon gentilhomme, me permettez-vous de vous adresser une question ?»« Très volontiers. Peut-être la trouverez-vous indiscrète. »« Aucunement. Eh bien, cette question la voici. Est-ce que vous avez hérité depuis hier ? Pourquoi diable me demandez-vous cela ? Parce qu'hier, vous étiez aux expédients, et qu'aujourd'hui, vous paraissez fort bien en fond.
Non, répondit Raoul avec un sourire. Je n'ai pas hérité. J'ai gagné.
Ah, vous avez donc suivi mon conseil indirect.
Lequel ?
Celui d'aller au jeu.
Oui, et je m'en suis bien trouvé.
La fortune vous a souri ?
Toute la nuit.
Alors, vous avez gagné beaucoup ?
Oh, beaucoup !
Combien ?
200 000 livres.
200 000 livres ? Répéta le juif qui tressaillit sur son fauteuil de point de Hongrie.
Tout autant.
C'est superbe, savez-vous ?
Oui, certes.
Et vous trouvez probablement, mon gentilhomme, qu'en demandant 10 louis, en échange de l'idée que je vous donnais d'aller vous attabler au tapis vert de la maison voisine, je ne vous ai pas fait payer mon idée trop chère.
Je suis prêt à le déclarer.
Eh bien, laissez-moi vous donner un nouveau conseil, tout aussi bon que le premier, et que je ne vous ferai pas payer du tout.
Quel est-il ?
C'est, maintenant que vous voilà riche, de ne plus remettre les pieds dans une maison de jeu.
Pourquoi donc ?
Ah, pourquoi ?
Oui ?
Simplement parce que si vous avez mis 4 heures à gagner cet argent, vous en mettrez 2 à le reperdre.
Ce n'est pas sûr. C'est au moins plus que probable.
J'ai vu bien des gens dans une position tout à fait semblable à la vôtre, sauf l'énormité de la somme gagnée. Le succès les enivrait. Ils retournaient au jeu afin de doubler leur fortune. Et le lendemain matin, ils accouraient chez moi, sans un sou, mettre en gage quelques brimborions échappés au naufrage, afin d'aller tenter de nouveau la chance, qui, moqueuse comme une jeune coquette, se riait d'eux et de leurs efforts.
Je vous remercie de votre conseil, mais les gens dont vous parlez étaient des fous qui perdaient la tête, s'obstinaient contre la déveine et manquaient de sang-froid et de la fermeté nécessaire aux grands joueurs.
Et ce sang-froid et cette fermeté, vous les avez, vous, mon gentilhomme ?
Je le crois.
Ainsi, vous retournerez au jeu ?
Je ne sais, cela est possible.
Alors, avant 8 jours, cette montre que je viens de vous rendre aura repris sa place, là, dans mon coffre-fort.
Nous verrons.
N'oubliez pas, mon gentilhomme, que s'il vous convient de vendre au lieu d'échanger, je vous ai offert et je vous offre encore 100 louis.
Raoul haussa les épaules.
Nathan le conduisit jusqu'à la rue. Déborah n'avait pas paru.
Chapitre 6.
Nathan et Déborah. Mon Dieu, se dit M. de la Tremblay quand il eut quitté la maison de Nathan et qu'il se trouva sur le pavé de la rue Saint-Honoré. Mon Dieu, que ce vieil arabe est désobligeant avec ses conseils et ses prédictions. Qu'il se mêle donc de son métier en faisant suer l'argent et en prêtant sur gage à 200 ou 300 % d'intérêt, et qu'il ne se permette point de donner des leçons de sagesse à ceux qui l'exploitent impudemment. Le fou ! Il ne comprend pas que je viens d'entrer dans une veine de prospérité et de bonheur, et qu'à partir de la nuit passée, tout doit me réussir et me réussira. Certes, si sa fille n'était pas si belle, je ne rentrerais de ma vie dans son antre de maltotier. Mais cette Déborah divine, cette brune fille aux yeux de gazelle et aux cils de velours, m'a bouleversé le cœur. Je veux la revoir, et je la reverrai. On a la preuve, d'après ce qui précède, que Raoul, tout en accusant les autres de folie, n'était pas trop sensé lui-même. On voit en outre qu'il était, sinon amoureux de Déborah, du moins bien près de le devenir. Nathan, après avoir refermé la porte du dehors sur Monsieur de la Tremblay, se mettait en devoir de remonter au premier étage afin d'y continuer des calculs interrompus par l'arrivée du visiteur. Déjà, il avait franchi quelques marches de l'escalier quand il s'entendit appeler par une voix dont les intonations, tout à la fois douces et vibrantes, lui firent battre le cœur. Cette voix était celle de Déborah. Le juif redescendit en toute hâte et entra dans l'appartement du rez-de-chaussée où se trouvait sa fille. Déborah, qui semblait languissante et fatiguée, était étendue sur le large divan. Par un étrange caprice de jeune fille, elle avait revêtu ce jour-là, au lieu de la robe sombre qu'elle portait la veille, un costume oriental d'une richesse éblouissante. Un collier de perles jouait autour de son cou doré.
Les sequins étincelaient parmi les nattes bleuâtres de sa chevelure. Ses bras, rejetés en arrière, formaient comme un oreiller pour sa tête alanguie, qui s'appuyait sur ses deux mains entrelacées. Un léger cercle de bistre entourait ses paupières et semblait attester une nuit d'insomnie. Aucun de ces symptômes de souffrance n'échappa au regard tendre et paternel de Nathan. « mon enfant, murmura-t-il avec anxiété. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu souffres?
Un peu de migraine, mon bon père, peut-être des vapeurs, mais ce n'est rien, rien absolument, répondit Déborah.
Bien sûr.
Oui, bon père, demain matin, il n'y paraîtra plus.
Que Dieu t'entende, fit le juif à peu près rassuré.
Mais dis-moi, tu m'as appelé tout à l'heure.
Oui, bon père, que me voulais-tu?
Vous voir et causer avec vous, voilà tout.
Tu n'as rien de particulier à me demander?
Rien, absolument.
Eh bien, causons. Mais d'abord, explique-moi la raison de cette toilette brillante et inaccoutumée.
La raison? Je ne pourrais vous en donner aucune. C'est un caprice, une fantaisie. En rangeant dans les armoires de ma chambre, ce costume est tombé sous mes yeux. L'idée m'est venue de le revêtir. Et comme, presque aussitôt après, je me suis sentie un peu souffrante, le courage m'a manqué pour me déshabiller et reprendre mes vêtements de tous les jours.
Nathan n'insista point. L'explication que sa fille venait de lui donner lui semblait parfaitement suffisante. Il y eut entre les deux interlocuteurs un instant de silence. Sans doute, Déborah cherchait un moyen adroit d'amener la conversation sur un sujet qu'elle souhaitait d'aborder. Enfin, elle reprit la parole.
« Mon père, » dit-elle.
« Vous n'étiez pas seul tout à l'heure ?»«
Non, » répliqua Nathan, « je reconduisais quelqu'un. »
« Qui donc ?»«
Ce jeune homme que tu as introduit toi-même auprès de moi hier soir. »
Les joues de Déborah se colorèrent d'une légère rougeur que Nathan ne remarqua pas.
« Ah ? » murmura-t-elle. « Ce jeune homme est revenu ?»«
Sans doute, puisqu'il sort d'ici. »
« Que voulait-il ? » ?»«
Conclure quelque nouvel emprunt, sans doute. » »«
Tu te trompes. » »«
Comment ? » ?»«
Il me rapportait la somme que je lui avais prêtée hier. »
« Déjà ? » ?»«
Oui, c'est un gentilhomme fort pressé d'acquitter. » »«
Gentilhomme, dites-vous ? » ?»«
Oui. » »«
Croyez-vous donc qu'il le soit ? » ?»«
Je ne puis en douter. » »«
Vous savez son nom ? » ?»«
Je n'en sais pas la première syllabe. » »«
Eh bien ? » ?»«
Eh bien, mon enfant, le bijou qu'il m'avait laissé en gage, bijou de famille, note bien ceci, était une montre armoriée. De magnifiques armoiries, ma foi. » Un tremble d'or en champ de gueule, timbré d'une couronne de marquis.
« Mais, mon père, » dit alors Déborah avec une indifférence affectée,
« il serait très facile, en feuilletant un armorial, de savoir à quelle famille appartiennent les armes que vous venez de blasonner. »
« Sans doute, ce serait facile, mais à quoi bon ?
Dans quel but faire cette recherche ?»«
Vous avez raison, dans quel but ? Il y a apparence que vous ne reverrez jamais ce jeune homme. »
« Ah, quant à cela, tu te trompes, » répliqua Nathan en souriant.
« Il reviendra ? » ?»«
Oui, et bientôt. »«
Pour vous emprunter de l'argent ?»«
Tout juste. » »«
Mais cependant, puisqu'il vous a payé ce matin,
tu supposes qu'il ne doit plus avoir besoin de moi ?»«
Dame, il me semble. » »«
Sais-tu quel argent il m'a apporté tout à l'heure ?»«
Comment le saurais-je ? » ?»«
Eh bien, c'était l'argent du jeu. Il a joué. » Il a gagné beaucoup, une somme énorme, 200 000 livres. Mais cette somme, il l'a achetée à un prix terrible. Il est devenu joueur, et il le sera toute sa vie. Je l'ai lu dans ses yeux. La fièvre des cartes et du tapis vert court maintenant dans ses veines avec son sang. Il jouera de nouveau, il perdra ce qu'il a gagné. Et pour obtenir de moi 50 louis, il reviendra, m'apporter en gage, soit cette montre au tremble d'or, soit quelque autre bijou.
Déborah n'écoutait plus son père.
« Joueur !» se disait-elle à elle-même. « C'est dommage. »
Le juif poursuivit.
« Un joueur, vois-tu, ma pauvre enfant. C'est un homme réunissant en lui seul et par le fait de cette passion diabolique tous les vices qui, d'habitude, ne marchent point en troupe si compacte. Un joueur, Ah, vaudrait mieux, selon moi, un voleur ou un libertin. Pour le joueur, rien n'est sacré. Il vendrait sa femme ou sa mère afin d'acquérir l'argent nécessaire à son jeu. Eût-il à sa disposition des trésors pareils à ceux que j'ai accumulés dans cette maison et qui t'appartiendront un jour, il les dissiperait en quelques nuits, peut-être en quelques heures. Et quand il ne lui resterait plus rien, il volerait pour jouer encore. Nathan se tut et se prit à tousser à plusieurs reprises. Cette tirade, débitée avec chaleur, l'avait surexcité outre mesure. Son asthme catarrhal lui faisait sentir en ce moment qu'il devait s'interdire avec le plus grand soin la déclamation et l'animation. Déborah quitta son divan et courut préparer pour son père un grand verre d'eau sucrée, dans lequel elle versa quelques gouttes d'un puissant cordial. Nathan avala cette potion d'un seul trait et ne tarda guère à se sentir soulagé. « Chère fille, murmura-t-il, cher enfant, ton vieux père te remercie. »«
Pourquoi vous échauffer ainsi ?» lui répondit Déborah de sa voix la plus douce.
Et tout bas, elle ajouta pour la seconde fois, en se parlant à elle-même,
« Joueur, c'est dommage. »
Il y eut encore quelques paroles insignifiantes échangées entre le père et la fille. Puis Nathan entendit frapper à la porte de la rue et il quitta Déborah afin d'aller reconnaître et introduire le nouveau venu. Aussitôt que la juive se trouva seule, elle reprit sur le divan sa pose nonchalante et abandonnée. Bientôt ses yeux se fermèrent et elle parut s'endormir. Mais elle ne dormait pas, elle pensait. À quoi ? Eh mon Dieu, à ce jeune inconnu qui la préoccupait si étrangement et dont l'image depuis la veille la poursuivait sans cesse. « Mon père maudit les joueurs, se disait-elle, et croit qu'ils sont inguérissables. Mais il n'est pas, dit-on, de si terrible mal que l'amour ne puisse guérir ?» Puis, après avoir brodé longtemps sur ce thème, elle ajoutait « Où trouver un armorial pour savoir son nom de famille ?»